Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Chacun aspire à un amour durable et vrai qui mène au bonheur et à la joie profonde. Les désaccords dans le couple sont inhérents à la relation, comment les affronter et restaurer ainsi l'harmonie du couple. L'amour durable, joie et mythe de l'amour conjugal, c'est l'ouvrage tout récemment paru chez Arthège de l'invité de Vivante Église, Marc D'Anselme. Bonjour.
Bonjour Yannick.
Vous êtes psychologue et thérapeute de couple. Vous êtes de passage dans notre région pour une conférence que vous avez donnée à Familia, à Bordeaux. Et nous allons parler aujourd'hui de ces conflits, désaccords, disputes dans le couple. Peut-être qu'il faudrait commencer par cette question toute simple, peut-être un peu naïve, vous avez trouvé. Est-ce que l'amour peut résoudre à lui seul tous les désaccords?
Alors, il faut de l'amour pour résoudre les désaccords. Est-ce qu'il va le faire à lui seul? C'est une vraie question philosophique. Là,
vous me posez là, je vous piège.
Et là, vous me piégez un petit peu. Je pense qu'au sein d'un couple, en tout cas, la plupart des accords peuvent être réglés par l'amour, effectivement. Pas forcément au niveau premier, mais au moins dans un niveau second. Je vous prends un exemple très simple. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais des parents d'amis. Elle était protestante, lui était catholique. Ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur la bonne religion. Donc effectivement, il n'y avait pas d'accord là-dessus. En revanche, ils étaient mis d'accord sur la façon dont ils allaient vivre cette différence. Et entre autres, monsieur s'était engagé à ne jamais chercher à convertir sa femme. La femme s'était engagée à ce que les enfants soient éduqués dans la foi catholique. Ce qui est extraordinaire dans ce couple, c'est qu'au décès de monsieur, madame s'est convertie. Mais vous voyez, ils n'avaient pas trouvé un accord direct. En revanche, ils s'étaient accordés sur la façon de vivre ce désaccord. Et je trouvais que c'était quand même un accord, ça. C'était
quelque chose de très beau. Un modus vivendi, finalement.
Exactement. Mmh. Un modus vivendi qu'ils ont respecté tous les deux. Mmh. Et qui a porté beaucoup de fruits.
Qui a porté du fruit, c'est bien heureux. Alors, on distingue, en tout cas, vous distinguez dans votre ouvrage, Marc D'Anselme, le désaccord, le conflit et la dispute. Est-ce que vous pourriez peut-être d'abord nous expliquer ce qu'est un conflit?
Oui. Le désaccord, je crois que c'est une notion, tout le monde sait ce que c'est qu'un désaccord. Le conflit, surtout en psychologie conjugale, nous l'employons dans un terme très particulier. Conflit, en latin, ça vient du mot conflictus, qui veut dire choc. Le conflit, c'est un choc. Pourquoi? Parce que le conflit, ça va être expliciter le désaccord. Dire « je ne suis pas d'accord avec ça », c'est-à-dire de rendre public le désaccord, d'une certaine façon. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec la dispute. Ça peut se faire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse. En revanche, ça reste un choc psychologique, on pourra revenir dessus tout à l'heure, c'est quelque chose qui est difficile de dire « je ne suis pas d'accord avec quelqu'un » parce que spontanément, toute une nature est faite pour nous accorder avec la personne qui est en face de nous. Et là, on dit « non, justement, ça ne marche pas ». Donc, ce n'est pas facile, c'est un choc.
Et le désaccord, c'est juste une...
Alors, le désaccord, en fait, ça provient de... C'est plus léger, ça provient de différences d'opinion, de différences d'éducation, de différences de culture et autres. On n'a pas le même avis, surtout. Dans l'exemple que c'était tout à l'heure, madame était protestante, monsieur était catholique. Ils n'étaient pas d'accord sur le... Voilà, ils n'étaient pas d'accord là-dessus.
Mais est-ce qu'il y a quand même un impact d'un désaccord sur la vie du couple?
Alors, il y a un impact sur la vie du couple parce que la grande règle du couple, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie, pourquoi? On touche là une exception de la vie conjugale. Normalement, toute société humaine est organisée en fonction d'une structure hiérarchique. C'est vrai de toutes les sociétés humaines. Il y a, à mon avis, une seule exception, c'est le couple conjugal. Le couple conjugal, il n'y a pas de hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autorité de l'un sur l'autre pour la raison que les deux conjoints doivent être libres pour s'aimer. Il faut qu'il y ait, d'une certaine façon, une forme d'égalité de liberté, donc il ne peut pas y avoir d'autorité l'un sur l'autre. Par conséquent, qu'est-ce qui va faire l'unité de ce couple? Qu'est-ce qui va faire la cohérence de ce couple? C'est qu'ils vont se mettre d'accord, ils vont créer une harmonie entre eux. C'est possible au sein du couple. Pourquoi au sein du couple? Pourquoi? Parce que le couple, c'est le lieu de l'amour inconditionnel. On ne peut pas demander aux hommes politiques de se mettre d'accord par amour, ça ne marchera jamais. Par contre, dans le couple, c'est possible. C'est-à-dire que l'amour va être plus fort et va créer quelque chose, une harmonie d'un ordre supérieur à ce que fait une hiérarchie.
Est-ce que les conflits sont inévitables dans la vie conjugale?
Alors, les conflits sont tout à fait évitables, mais c'est malheureux. Ce qui est inévitable, ce sont les désaccords. Ce n'est pas possible d'être complètement en accord avec son conjoint parce qu'on est deux personnes différentes, donc forcément on va affirmer des choses différentes. On disait dans une précédente émission que pour que l'amour puisse se réaliser, il faut que les deux personnes s'affirment. Mais si elles s'affirment, elles vont affirmer des choses différentes, donc on n'est pas d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ces désaccords? On peut étouffer les désaccords, il ne va pas y avoir de conflit. Mais là, on est en train de miner le terrain conjugal, tôt ou tard, ça va nous péter au nez, comme on dit. Donc, en revanche, il est meilleur, je pense, d'expliciter ces désaccords, c'est-à-dire d'aller au conflit et puis ensuite de les résoudre.
Et quels sont les bénéfices, justement, d'aller au conflit et de les résoudre ?
Alors, les bénéfices de résoudre les désaccords, c'est que, étonnamment, ces désaccords, c'est une source de richesse pour le couple. C'est comme une pépite, si vous voulez, qu'il faut débarrasser un peu de sa gang, qu'il faut faire apparaître, mais derrière, il y a une véritable richesse. Parce que nos différences d'opinion, de culture et autres apportent chacune quelque chose de bon. Quand on arrive à prendre ce qu'il y a de bon chez chacun et à marier ces deux choses bonnes ensemble, là, on enrichit le couple beaucoup plus que s'il n'y en a qu'un seul qui donne la tonalité. Et c'est ça le mariage, c'est marier aussi nos différences, c'est marier aussi ce que nous apportons qui est différent de l'autre, arriver à faire quelque chose d'harmonieux avec ça. Et ça, ça me semble quelque chose de très important. Mais ce n'est pas le seul bénéfice. Le processus de se mettre en accord avec son conjoint va monopoliser chez chacun de nous un tas de capacités, un tas de qualités. On va être obligé de comprendre son conjoint. On a vu dans une autre émission que la compréhension entraînait le lien. C'est-à-dire qu'en fait, on va favoriser énormément d'éléments de la vie conjugale. On va s'obliger à rester relativement souple nous-mêmes et progresser individuellement. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, ça apporte des bénéfices dans tous les domaines, cette résolution des conflits. Non seulement on enrichit la vie familiale et conjugale, les personnalités sont obligées de progresser l'une et l'autre. Voilà, donc on voit que c'est quelque chose qui est très, très important.
Est-ce qu'il y a un lien entre la résolution de conflits et la confiance en soi ?
Oui. Alors je dirais plus qu'il y a un lien entre le fait d'oser le conflit, d'oser dire je ne suis pas d'accord et la confiance en soi.
Oui, plutôt, oui.
Souvent, par manque de confiance en soi, on n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord. On se demande qu'est-ce que l'autre va en penser, comment il va me juger, etc. Est-ce qu'il va continuer à m'aimer, etc.
Et puis on peut avoir peur de la réaction aussi.
Et on peut avoir peur de la réaction. Or, justement, quand on a un manque de confiance en soi, oser le conflit, oser dire je ne suis pas d'accord avec ça, c'est une très bonne façon de cultiver cette confiance en soi, de l'accroître, de corriger cette petite lacune.
Et on évite finalement ce dont on parlait dans une précédente émission, ces effets de domination et de soumission.
Tout à fait. Tout à fait, parce que si on ne dit pas ce que l'on pense, c'est le plus fort qui va l'emporter. Forcément, il y en a un des deux qui va l'emporter. On n'est plus en harmonie, donc forcément, il y en a un des deux qui va imposer sa volonté à l'autre. Et là, on passe dans une relation de domination-soumission.
Vous parliez, Marc Dansen, de ce choc du conflit. Vous indiquez dans votre ouvrage que le conflit est la mise en lumière du désaccord. Et vous dites qu'il y a un double choc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
Oui, parce que je vous dis, on parlait dans une précédente émission des neurones miroirs. Quand nous sommes face à quelqu'un, on cherche spontanément ces neurones miroirs à recréer l'état d'esprit de la personne en nous. C'est-à-dire toute notre nature est faite pour que nous nous entendions bien, pour nous trouver le terrain d'entente avec l'autre. Dans le conflit, on marque que cette entente n'est pas facile, n'est pas possible. Alors effectivement, c'est un choc psychologique. C'est un choc psychologique pour celui qui dit « je ne suis pas d'accord », mais c'est un choc psychologique aussi pour celui qui reçoit « je ne suis pas d'accord avec toi ». C'est-à-dire que c'est un double choc, c'est un choc pour chacune des deux personnes. Et par conséquent, c'est quelque chose de difficile, le conflit. D'ailleurs, la plupart des gens, pour aller au conflit, sont obligés de se mettre en colère, pour être de l'énergie dans la colère, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire simplement. L'idéal, ça serait d'arriver à dire très simplement « ben là, il faut qu'on se mette d'accord, parce que ça ne va pas. Moi, ça ne me convient pas, ça ». Mais ce n'est pas facile de le faire avec bienveillance. Par contre, c'est un bon exercice, c'est l'objectif
C'est un bon exercice, mais parfois le conflit peut réveiller, on en parlait la semaine dernière, peut réveiller des émotions. Et finalement, ces émotions empêchent d'avoir une lecture posée des conflits.
Alors ça, c'est intéressant. Puisque le conflit provoque un choc psychologique, il va provoquer des émotions. Et par conséquent, avant de régler un conflit, il va falloir régler ses émotions. Comme on le disait la semaine dernière, la partie émotionnelle est prioritaire. C'est d'abord les émotions prioritaires dans le temps, c'est d'abord les émotions qu'il faut régler avant de régler le conflit. Mais c'est vrai que le conflit, il a provoqué des émotions.
Il y a aussi la notion de dispute. Est-ce que vous pourriez aussi nous situer cette notion par rapport au conflit ?
La notion de dispute, toutes les disputes ne viennent pas par des désaccords ou des conflits. Hein. Mais il y a un certain nombre de disputes qui viennent justement parce que les conflits n'ont pas été réglés. C'est-à-dire qu'on reste, les deux conjoints restent sur quelque chose qui ne va pas entre eux, ce qui les met dans un état de tension, ce qui fait l'état de tension, ça finit toujours par exploser à un moment ou à un autre. Et donc ça provoque des disputes. En ce sens-là, la dispute, c'est comme un signal d'alarme. Attention, là, on a un conflit sur le feu qu'il faudrait peut-être régler. C'est-à-dire qu'il faut revoir un petit peu en quoi n'est-on pas en harmonie l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous ? Et donc je considère souvent la dispute comme un signal d'alarme. La dispute, elle peut faire mal aussi, hein, parce qu'on a des mots blessants envers l'autre. En tant que tel, je ne la trouve pas si grave, à condition qu'elle soit reprise après, qu'on soit capable rapidement de restaurer la relation, de se remettre en harmonie l'un avec l'autre. Et même souvent, la restauration après une dispute, la vie est de meilleure qualité que s'il ne s'était rien passé. Donc en soi, elle n'est pas grave si elle est suivie d'une restauration de la relation. Et par ailleurs, la dispute, elle est très inquiétante pour les enfants. Parce que l'univers des enfants, c'est ses deux parents qui le font. Si les parents se disputent, ils ont l'impression que cet univers est en train de se fissurer. Donc c'est angoissant pour l'enfant. Or, les parents, ils vont se réconcilier sur l'oreiller, comme on dit. Donc l'enfant, il voit la dispute, mais il ne voit pas la réconciliation. Donc il est très important pour l'enfant de lui signifier « Nous sommes réconciliés, nous sommes en harmonie avec l'autre. » Voilà, par des petits gestes d'affection, parce qu'il y a une connivence entre les deux parents que l'enfant va percevoir. Du coup, il va relativiser la dispute, ce qui est intéressant pour lui, parce que lui aussi, il se dispute. Et donc, du coup, il va pouvoir faire ce qu'il faut.
Mmh. Oui, donc vous disiez qu'un des bienfaits du conflit ou de la résolution de la dispute, c'est aussi un bienfait pour la famille et notamment dans l'éducation, le modèle qui veut montrer qu'en fait, un conflit n'est pas une fin en soi.
Absolument.
Mais un tremplin. Absolument. Et un moyen d'avancer.
Alors, ça, les parents ne s'en rendent pas souvent compte, mais une grande partie de l'éducation des enfants se fait par ce que j'appelle par imprégnation, c'est-à-dire au spectacle de ses parents. L'enfant s'imprègne d'une atmosphère. Des parents qui osent le conflit et qui résolvent le conflit, vous avez un enfant qui va s'en sortir dans la vie. Il a appris à résoudre les problèmes, il a appris à les dire, à les exposer clairement et à se remettre en harmonie derrière. Donc c'est quelqu'un qui a quelque chose de très fort en lui dans la vie. Et ça, c'est quelque chose dont l'enfant s'imprègne. Et donc c'est important, cette résolution des conflits pour l'enfant.
Oui. Oui. Il y a parfois, vous le disiez, il y a cette peur du conflit, hein, pas forcément envie d'aborder les choses difficiles. Alors, par quoi il faudrait commencer pour vaincre cette peur?
D'abord, il faut identifier cette peur. La peur du conflit, c'est la peur de ce choc psychologique, mais elle va résonner différemment selon les personnes. Chez certains, il se dit, si je dis ça à mon conjoint, il va croire que je ne l'aime plus, ou lui ne va plus m'aimer. Donc il peut y avoir des craintes de perte d'affection. Il y a des craintes de se dire, mon conjoint ne va jamais supporter que je lui dise quelque chose comme ça. Toutes ces craintes sont factices, en fait. Nos conjoints sont tout à fait capables d'accepter le conflit. Le conflit est quelque chose de naturel. C'est un petit choc naturel de la vie. C'est même un choc bénéfique. Il oblige chacun à se remettre en cause. Mais comme c'est un choc, spontanément, notre nature tend à l'esquiver. Donc, on a tout un tas de raisons, tout un tas de bonnes raisons, entre guillemets, pour lesquelles nous cherchons à éviter le conflit. Voilà. C'est bon d'identifier sur à quoi je suis le plus sensible, moi. Est-ce que c'est la perte d'affection dans le conflit? Est-ce que la peur d'être jugé? Est-ce que j'ai peur de pas pouvoir argumenter, etc.? Et de savoir surmonter ça, parce que, du coup, on progresse également individuellement.
Et oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a aussi des situations dans lesquelles on cherche à échapper au conflit? Et en cherchant à y échapper, finalement, on s'y prend mal quand on aborde le conflit.
Alors, très souvent, les gens qui ont peur du conflit, pratiquement une personne sur deux au moins a peur du conflit, pour oser le conflit, est obligé de prendre de l'énergie dans la colère. Et du coup, ça fait un conflit qui est très maladroit et qui est souvent blessant. Mmh. C'est déjà un bel état de maîtrise de soi, de progression personnelle, que de réussir à faire des conflits avec bienveillance, de dire faut qu'on règle ça maintenant, parce qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est tout à fait possible. Maintenant, ça demande un peu d'entraînement. Ça ne vient pas spontanément, quand même.
Mmh. Est-ce que vous auriez un exemple de cet entraînement, de ces différentes étapes, pour arriver à ce que le conflit soit posé de façon paisible?
Oui, je me souviens avoir eu dans mon cabinet un homme qui était marié depuis 2 ans et qui venait me voir complètement démonté, disant « ma femme veut me quitter, c'est fini, elle veut plus de moi », etc. Le pauvre homme était complètement effondré. Et je me suis aperçu que cet homme-là, dans sa famille d'origine, il n'y avait jamais eu de conflit. Il ne savait pas ce que c'était qu'un conflit. Intellectuellement, il a réussi à comprendre ce que c'était, mais concrètement, ça ne réalisait rien du tout. À l'inverse, sa femme était une famille dans laquelle ça se disputait sans arrêt. Il n'y a pas un repas sans qu'il y ait un pain qui parte en claquant la porte, etc. Donc on voyait bien, effectivement, c'était quelque chose de difficile pour lui. Mais cet homme, je l'ai amené à comprendre que c'est sa femme, il pouvait trouver des qualités qu'il n'avait pas. Ce culot d'oser dire les choses, cette force d'oser les dire. Et donc il a commencé à rentrer en conflit. Les premières fois, effectivement, en puisant de l'énergie dans la colère. Mais c'est pas un homme qui était coléreux, en fait. Et petit à petit, il a appris à dire les conflits avec bienveillance. Ça lui a fait, lui, beaucoup de bien. Il a pris énormément de confiance en lui. Mais ça fait aussi énormément de bien à sa femme, qui était habituée à des conflits extrêmement durs, extrêmement brutaux. S'apercevoir qu'en fait, on pouvait faire les choses avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup de bienveillance. Et le couple a beaucoup progressé là-dessus.
Voilà une.
Ce couple s'est pas séparé, contrairement à ce qui devait se passer initialement.
Ah, oui. Voilà, d'où l'intérêt de prendre le temps aussi pour son couple et puis d'essayer de trouver des solutions pour résoudre les difficultés.
Mais ce qui est intéressant dans la situation que je viens de vous citer, c'est que le progrès de l'un a entraîné le progrès de l'autre. Et ça, je trouve ça très beau, je trouve ça très conjugal.
C'est la boucle vertueuse dont vous parliez.
La boucle vertueuse, ouais. Exactement, ouais, dont on parlait la dernière fois, oui.
Alors nous avons fait ces distinctions entre le désaccord, le conflit, la dispute. Je vous propose qu'on marque une petite pause musicale. Nous allons écouter Le Grand Amour interprété par Les Frangiles et puis nous nous retrouverons après pour voir comment on va pouvoir résoudre ces conflits. Et vous avez ce très beau terme de l'accordage des conflits.
Tout à fait.
Qui sait attendre la vie, sait le rendre. Elle peut nous surprendre à être tendre. Pour bâtir un empire ou construire un amour, il s'en passe des soupirs et des milliers de jours. À qui peut tomber sans jamais renoncer, peut tout endurer, à qui sait pleurer. L'âme peut consoler les larmes de ceux qui gardent la flamme du courage en eux. Si je te dis ça, c'est que je t'aime. Mais s'aimer prendra du temps. On récolte ce que l'on sème. C'est que je t'aime, mais l'amour peut prendre froid. Le grand amour mérite un toit qui ne s'effondre pas. Si tu sais traverser l'orage sans chavirer, voir ce qui l'a détruit sans rage, espérer à nouveau. Si tu sais rebâtir de tes mains une coque brisée, une voile déchirée. Si tu sais tout ce que l'amour peut endurer. Si tu n'en as pas peur, si tu veux essayer de voir le lendemain comme un sourire qui vient. Tout en toi, j'irai bien. Si je te dis ça, c'est que je t'aime. Mais s'aimer prendra du temps. On récolte ce que l'on sème. Si je te dis ça, c'est que je t'aime. Mais l'amour peut prendre froid. Les premières lueurs de l'hiver. Garde-moi une place.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
C'était Les Frangines qui interprétaient Le Grand Amour. Nous sommes en présence de Marc Danselme, psychologue clinicien et thérapeute de couple. Notre émission d'aujourd'hui a pour thème la résolution des conflits dans le couple. Vous employez, Marc Danselme, le terme d'accordage plutôt que de résolution. Pourquoi ?
Eh bien, figurez-vous, c'était un petit conflit avec ma femme, ça. Ma femme qui est professeure de français m'a dit, tu mets accord au début, tu dois mettre désaccord au début, tu dois mettre accord à la fin. Et en fait, on a gardé ce mot accordage, que l'accordage, c'est quelque chose d'assez beau, c'est ce que font les instruments de musique avant un concert. Il y a un instrument qui donne une note, et tous les instruments s'accordent sur cette note. Et ensuite, ce que je trouve très beau, c'est que chaque instrument va jouer selon sa propre sonorité, mais ça va être en harmonie avec l'autre. Et ça, je trouve, c'est une très belle image de la vie conjugale. Chacun en harmonie avec l'autre, mais selon sa propre sonorité. Et donc, on a gardé ce mot accordage que je trouvais bien adapté, finalement, à la vie conjugale.
En tout cas, voilà. C'est un exemple qu'un conflit peut porter du fruit.
Ben voilà, effectivement.
Alors, avant de passer du conflit à l'accordage, il est nécessaire de respecter trois conditions. Vous les évoquez dans votre ouvrage, est-ce que vous
pouvez
nous les
dire ? Oui, alors effectivement. Dans ces trois conditions, il y a deux d'abord qui sont des préalables, et la troisième, c'est la technique d'accordage proprement dite. Alors, le préalable, on disait, je crois que c'est dans la précédente émission, il n'y a pas d'autorité d'un conjoint sur l'autre. Par conséquent, ils doivent se mettre d'accord. L'accordage, ça va se faire par un acte d'autorité. Ça va être un mouvement des deux ensemble qui vont se mettre d'accord sur quelque chose. Je vous prends une situation clinique, un exemple là, qui s'est passé dans mon cabinet. C'était une femme qui était toute jeune, s'était mariée à 18 ans ou 19 ans, je ne sais plus, et venait me voir quelque temps après le mariage, et je constate qu'effectivement, le père de cette femme, qui était un homme malheureux parce que les parents étaient séparés, le père de cette femme est un peu intrusif dans le couple, et prend un peu la place du mari d'une certaine façon. Et donc, ils sont d'accord avec moi, et je leur demande, comment vous allez faire maintenant pour que votre papa, madame, reprenne sa place correctement? Alors, ils sont tous les deux en train de réfléchir, puis au bout d'un moment, il y a le mari qui dit, écoute, voilà, c'est très simple. La prochaine fois que ton mari, ton père te téléphone, tu vas dire ça, ça, ça et ça. Il sort quatre trucs magnifiques. Au point de vue décisionnel, il n'y a rien à redire. C'était très efficace. Le beau-père ne pouvait pas faire autrement que de comprendre qu'il n'était plus à sa place. Mais en même temps, c'était fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse. Bref, tout y était. Et au fur et à mesure où il parle, je vois le visage de la jeune femme qui se ferme. Et je me dis, mais elle va refuser le truc. Et effectivement, quand le mari finit de parler, elle l'envoie promener. Il dit, mais non, c'est hors de question, on ne va pas faire ça, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, ce qui s'est passé, c'est que le mari, finalement, il fait une prise d'autorité là-dedans. Il est en train de prendre le pouvoir sur sa femme. Il dit « Tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. » Et en fait, il est en train de prendre autorité sur elle. C'est d'autant plus grave que vous imaginez le cas, cette toute jeune femme, elle était avec un papa qui était seul, donc elle avait l'habitude d'obéir à son père. Qu'est-ce que le mari est en train de faire? Il est en train de dire « T'as obéi à ton père, maintenant c'est à moi que tu veux obéir. Oui. » Donc forcément, elle l'a envoyé promener. Et c'est très sain de sa part de l'avoir envoyé promener. Donc c'est un peu un contre-exemple de ce que je voulais vous dire, mais c'est un contre-exemple qui est marquant parce qu'il montre qu'effectivement, à partir du moment où on est marié, ça doit être une décision à deux. Ça ne peut pas être une décision d'un seul. Le mari aurait simplement dit « je te propose », ça changeait tout.
Eh oui.
Et sous le « je te propose », on peut dire c'est de la forme, mais la forme, elle contient un message de fond parce qu'elle signifie la façon dont je vais traiter l'autre. Et donc, c'est quelque chose de très important. J'ai même envie de dire c'est presque plus important que ce qu'on appelle le fond du
que
message.
Le fond, oui, c'est ça.
Voilà. Donc, pour vous dire, ça ne peut pas être un acte d'autorité. Il faut que ce soit vraiment un mouvement des deux ensemble. Mais c'est intéressant parce qu'on est dans la vie conjugale et la vie conjugale, c'est bien un mouvement des deux ensemble. Donc on est bien dans un acte conjugal. L'accordage, c'est vraiment un acte conjugal. C'est vraiment un acte d'amour. La deuxième précaution, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est que, en premier, il faut régler les émotions. Comme le conflit est quelque chose de difficile, c'est un choc psychologique, les deux personnalités sont un peu blessées par le conflit. Il faut d'abord revoir toutes les émotions qui sont derrière. Donc il y a toute une ambiance émotionnelle à créer, une empathie à créer entre les deux, une syntonie à créer entre les deux personnes. Pour dire les choses autrement, c'est pas dans le coup de feu du 18-20 heures qu'on va régler un conflit. Non, il faut se prendre un moment au calme, il faut aller faire une petite promenade, il faut se prendre un apéritif, on se prend tous les deux, on se dit voilà, maintenant on va essayer de parler tranquillement des choses.
Et
voilà.
C'est presque donner un aspect festif finalement à cette résolution de conflit, on garde un moment particulier.
Vous savez, j'aime bien ce que vous dites, un aspect festif, parce que pour moi la vie conjugale, elle doit être festive justement. Et donc effectivement, on va faire un acte conjugal, mais on va y mettre quelque chose de festif d'abord.
D'exceptionnel,
voilà. On va mettre une atmosphère de joie, une atmosphère de bien-être entre nous pour le faire.
Même si la discussion n'est pas forcément facile.
N'est pas forcément facile. Mais parce qu'on est dans cette atmosphère festive, dans cette atmosphère d'empathie mutuelle, de syntonie, les choses vont être beaucoup plus facilitées. Autrement, effectivement, si on est déjà un peu en tension l'un contre l'autre, on ne va pas y arriver. C'est trop compliqué. Et le troisième point, qui est un point technique, celui-là est, voilà, c'est vraiment la technique de l'accordage. Généralement, tel que le conflit est amené, il est amené sur une dialectique. Il faut qu'il y en ait des deux qui cèdent. À ce niveau-là, il n'y a pas de solution. La solution, il faut aller chercher, mais quel est l'objectif de chacun derrière ce qu'il dit? Il faut donc passer à un niveau supérieur. Et au niveau supérieur, là, on peut s'accorder. Au niveau des objectifs, au niveau de ce qui est essentiel pour chacun. Et on peut au moins s'accorder, si on ne s'accorde pas, on peut au moins hiérarchiser les différents éléments et donc créer un accordage quand même. Et ensuite, simplement, on retombe sur une modalité pratique. Je prends un exemple tout à fait fictif. Madame ne veut pas aller passer ses vacances dans sa belle famille. Alors, on peut en discuter éternellement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, Mais pourquoi tu ne veux pas? Quel est ton objectif en n'allant pas passer les vacances dans ta belle famille? Et les raisons qu'elle va apporter sont des raisons valables. Et quelles sont les raisons valables du mari pour lesquelles lui veut aller passer les vacances dans sa famille? Et là, on va trouver le terrain d'entente. Par exemple, je ne sais pas, les enfants ne se sentent pas bien, ben à ce moment-là, on va prendre des précautions pour que les enfants se sentent bien s'ils vont dans la belle famille. Ou effectivement, on n'ira pas, mais on va pouvoir s'accorder sur quelque chose de niveau supérieur. Mais quand on présente les choses, y aller ou pas y aller, c'est une dialectique, il faut qu'il y ait un des deux qui cède.
Et oui, c'est ça.
Voilà. Et donc, l'accordage, le principe, la technique d'accordage, c'est de sortir cette dialectique, passer au niveau méta, au niveau de ce qui est supérieur, des idées supérieures, principalement des objectifs de chacun. Et là, on va marier les objectifs de chacun. Et c'est ça la vie conjugale, c'est de marier ces différences, des objectifs différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de l'accordage, le couple est beaucoup plus riche. Parce qu'au lieu d'avoir l'apport que d'un seul des deux conjoints, il a l'apport des deux, un apport harmonisé de deux richesses différentes. C'est en ce sens-là que je disais, finalement, ces désaccords, ce sont des pépites entre nous, des pépites qu'il faut faire apparaître, qu'il faut débarrasser de leur gang. Et quand on s'est débarrassé de leur gang, on est beaucoup plus riche, parce qu'on est riche de deux personnes au lieu d'être riche d'une seule personne.
Mmh. Et encore faut-il oser et prendre ce temps.
Bien, hein. Sûr.
Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Quels sont les risques si un conflit n'est pas acté?
Alors, si le conflit n'est pas acté, c'est-à-dire que les deux personnes vivent avec quelque chose sur lequel ils ne sont pas d'accord. Comme il faut que la vie continue, forcément, il y a un des deux qui va imposer sa volonté à l'autre. Et donc, on tombe nécessairement, sous une forme ou l'autre, dans une relation de domination-soumission. Et là, on n'est plus du tout dans la vie conjugale. La vie conjugale, ce n'est pas de la domination-soumission, c'est de l'accordage. On doit se mettre en harmonie l'un avec l'autre. Donc, le risque de ne pas régler les conflits, de ne pas acter les conflits, ben, le risque, c'est de sortir de la vie conjugale.
Oui, et d'être dans un déséquilibre.
J'ai envie de dire, tous les couples en difficulté qui viennent me voir sont déficients sur ce phénomène-là. Ils ont un tas de désaccords qu'ils n'ont jamais réglés et qui a miné leur vie conjugale et qui devient finalement quelque chose d'extrêmement difficile. Donc il faut reprendre un certain nombre de choses, il faut reprendre les éléments pour recréer cette harmonie entre eux.
Et quand vous vous dites reprendre un certain nombre d'éléments, finalement c'est reprendre les conflits les uns après les autres et essayer de déminer ou de...
Alors, dans une thérapie, je ne vais pas reprendre tous les conflits. Je vais leur apprendre à régler eux-mêmes leurs conflits, à leur apprendre la technique pour le faire, comment ils doivent s'y prendre, etc. Et au bout du compte, quand ils ont réussi à résoudre 2-3 conflits avec moi, ensuite, ça va déjà, ils vont beaucoup mieux. Et ensuite, voilà, ils ont trouvé la méthode et ça progresse.
Donc ça, c'est un des risques, si le conflit n'est pas acté, c'est cet autoritarisme du dominant. Est-ce qu'il y a d'autres risques, Marc Lancelme?
Alors, il y a l'autoritarisme du dominant, il y a la position du soumis également, qui n'est pas du tout une bonne soumission, qui finit tôt ou tard par produire une révolte, parce que c'est infernal d'être soumis, donc la personne se révolte. Mais il y a quelque chose de plus sournois aussi là-dedans, c'est la victimisation. C'est-à-dire que si les choses ne vont pas bien, on va dire, c'est de la faute de mon conjoint. Alors ça, on est hyper doué pour faire ça. Depuis que nous sommes tout petits, nous sommes très forts pour dire ça.
C'est pas moi, c'est l'autre.
C'est pas moi, c'est l'autre, oui. Mais ça veut dire, c'est intéressant, c'était la victimisation. La victimisation, la victime, elle ne peut rien faire puisqu'elle est victime. Forcément, c'est le bourreau qui doit agir. Donc en nous victimisant, nous satisfaisons cette espèce de moindre effort qui nous habite en permanence.
Une façon de se défausser, alors.
C'est une façon de se défausser, on le porte sur l'autre. Mais il y a quelque chose d'encore plus retors dans la victimisation. C'est qu'en fait, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. En se victimisant, nous dominons l'autre. Ben oui, puisque moi je suis victime, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que c'est à l'autre de travailler. Et donc j'oblige l'autre à travailler. Je prends le pouvoir sur lui en l'obligeant à travailler.
Et s'il ne trouve pas de solution, c'est de sa faute.
Et s'il ne trouve pas de solution, en plus c'est de sa faute, comme vous dites. Donc on voit très bien que se victimiser, en fait, c'est démissionner de son couple. Et ça, c'est très grave. C'est très grave, mais nous avons tous tendance à le faire. Quand je regarde ma vie conjugale, je perçois que oui, j'ai tendance à me victimiser très souvent. Ma femme aussi, mais parce que c'est spontané, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre nature. Donc je crois que c'est un point de vigilance, ça, sur tout ce qui est désaccord, tout ce qui est conflit, etc., de sortir de la victimisation, parce que la victimisation, c'est une démission de ce que nous devons faire.
Et est-ce que c'est pas aussi un moyen de dire « j'existe, ne m'oublie pas », de se victimiser?
Alors ça peut être aussi un moyen de dire « j'existe, n'oublie pas », c'est un moyen... En tout cas, ça signifie « j'éprouve des émotions très difficiles, prends en compte mes émotions ». Mais là, on est dans ce qu'on voyait la semaine dernière, c'est tout ce problème émotionnel. Et je vous l'ai dit, pour régler un conflit, il faut d'abord prendre effectivement les émotions en compte. Après, simplement, on peut régler le conflit. Donc effectivement, ça peut être ça aussi.
Ça peut être ça aussi. Quels sont les bénéfices en cas d'accordage?
Alors les bénéfices sont multiples en cas d'accordage, hein, c'est très intéressant. D'abord, on va résoudre un tas de sources de tension dans la vie conjugale, puisqu'on va se mettre, on va créer une harmonie. Donc forcément, on assigne énormément la vie conjugale, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... Bref, c'est ce qu'on cherchait quand on l'a fait. Mmh. Voilà, beaucoup plus fluide. Par ailleurs, par l'harmonie qu'on a créée, nous accroissons la confiance mutuelle. Finalement, je peux être en désaccord avec mon conjoint, c'est pas grave, on va réussir à s'harmoniser. Donc il y a une grande confiance mutuelle qui se met. Du coup, j'ai envie de dire, ça pacifie énormément la relation, ça pacifie toute la famille, même ça rejaillit sur les enfants. Parce qu'effectivement, et c'est le troisième avantage, ça va placer les enfants dans une ambiance qui est assainie. J'ai même envie de dire, dans une ambiance qui est cohérente. Ils vont pas voir papa d'un côté, maman de l'autre côté, ils vont voir les deux parents ensemble, œuvrant une œuvre commune, d'une façon harmonieuse l'un avec l'autre. Donc pour les enfants, c'est quelque chose qui est très apaisant, qui est très pacifiant. Et en plus, ça leur donne...
Rassurant.
Et ça leur donne même le sens du conflit. C'est-à-dire, je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, le dire, et créer une harmonie derrière. Donc ça, c'est une force énorme dans la vie quand on a acquis ça. Voilà. Et puis, on l'a bien vu aussi. Enfin, on ne l'a pas su, peut-être pas su, mais on dit tout de suite aujourd'hui au contraire. Dans la résolution de ce conflit... je vais devoir renoncer à un certain nombre de modalités concrètes pour me mettre d'accord sur les objectifs. C'est-à-dire, je vais faire un travail intrapsychique à l'intérieur de moi-même pour renoncer à des choses qui ne sont finalement pas importantes et vraiment me concentrer sur ce qui est important. C'est-à-dire, ça va m'obliger à une progression personnelle.
Et ça oblige à faire le tri finalement entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel.
Absolument, exactement. Et c'est excellent pour nous. Ça nous recentre sur l'essentiel. Et en fait, en finale, on s'aperçoit que le couple est enrichi de l'apport de deux personnes, non plus d'une seule. Donc on voit quand même de nombreux bénéfices à ce processus. C'est évident qu'il y a de nombreux bénéfices, il y a un coût aussi. Mais je crois que ça en vaut largement la chandelle, puisque le rapport coût-bénéfice est très très bénéficiaire.
Ah oui, complètement, oui. Vous recommandez à chacun des conjoints de chercher son défaut principal et de l'évoquer ensuite à son conjoint.
Oui. Parce que face à ce phénomène du conflit, nous avons tous des difficultés. Je dis déjà, pratiquement, il y a une personne sur deux qui a peur du conflit. On aurait presque envie de dire, la deuxième moitié, c'est les gens qui vont au conflit brutalement. Ils n'arrivent pas à les résoudre, ils sont sans arrêt dans l'opposition, dans la contradiction, ils n'arrivent pas du tout à créer cette harmonie. Bref, tout autour de cette question du conflit, il y a tout un tas de lacunes personnelles qui apparaissent. Et la résolution de ces lacunes personnelles, va permettre le conflit, ou pour dire les choses autrement, pour régler le conflit, il va d'abord falloir passer outre ses lacunes personnelles. Donc on voit très bien une très grande voie de progression personnelle à travers ce conflit, outre la voie de progression conjugale et familiale, il y a aussi une voie de progression personnelle, et on retrouve cette fameuse trilogie, le progrès personnel, le progrès conjugal et le progrès familial, c'est quasiment une seule et même chose.
Mmh. Est-ce que vous auriez un exemple de cette prise de conscience et de cette façon de dire à son conjoint, ça c'est mon défaut principal, je vais travailler dessus?
Alors oui, ça m'est arrivé quand, après avoir donné les premières fois que j'ai donné des conférences sur le conflit, je me suis dit à moi-même, finalement tu donnes un tas de leçons à tout le monde, là ce serait peut-être bon que tu fasses toi un effort et que tu appliques ce que tu dis aux autres. Alors sans rien dire à ma femme, j'ai repéré où était ma lacune personnelle. Je peux vous le dire d'ailleurs, moi j'avais peur du conflit, j'osais pas aller au conflit, j'osais pas dire les choses. Et sans rien dire à ma femme, j'ai essayé d'aller au conflit avec bienveillance. Et tenez-vous bien, 3 semaines après, c'est ma femme qui allait mieux. Ben oui, parce qu'on avait assaini énormément de choses dans notre vie conjugale, elle se sentait beaucoup mieux avec moi, parce que les problèmes, au lieu de rester en suspens, trouvaient une solution, parce que les choses étaient dites, parce qu'au moins les choses étaient claires face à elle, et elle se posait pas un tas de questions sur mes réactions, sur ce que je faisais, pourquoi ça n'allait pas. Donc je propose effectivement aux personnes qui vont lire ce chapitre sur le conflit, de repérer leur lacune personnelle, puis de dire simplement à leur conjoint. Et quand les deux membres du couple font ça, c'est intéressant parce que du coup, vous savez que votre conjoint va aller au conflit avec maladresse, puisque c'est quelque chose de difficile. Vous allez pouvoir accueillir cette maladresse avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de bonté. Et du coup, la résolution du conflit va être extrêmement facilitée derrière tout ça. Donc je pense qu'effectivement, c'est une belle chose de savoir dire, spécialement autour de ce problème du conflit, savoir dire ça faille à son conjoint, dire moi je suis pas très doué dessus, j'ai un peu de mal avec ça.
C'est une belle marque de confiance.
Oui. Oui, et puis le conjoint accueille ça avec beaucoup de bienveillance la plupart du temps.
Mais alors, encore faut-il être conscient de cette faille et pas forcément demander à l'autre, tiens, tu voudrais que j'améliore dans quel domaine ?
Alors c'est mieux si on est conscient par soi-même, on dit voilà ce que moi j'ai à régler, plutôt que d'attendre que l'autre nous le dise. Quand c'est l'autre qui nous le dit, c'est pas forcément mauvais, mais...
C'est moins moteur peut-être.
C'est moins moteur, ça ressemble surtout un petit peu à ce qu'ont font les parents avec l'enfant. Ah, tu devrais faire attention à ça. Et ça, c'est les parents qui disent ça.
Bon,
notre conjoint, c'est pas un parent. Notre conjoint, c'est la conjointe. C'est pas la même chose. Et donc, c'est mieux que ça vienne de nous si on y arrive.
Oui.
Voilà.
Pour terminer, Marc Dancel, est-ce que vous auriez une belle histoire à nous raconter d'un conflit assez important qui a été résolu dans un couple, dans votre cabinet?
Oh, bah oui, dans les histoires, j'en ai des.
Vous en avez plein, j'imagine.
J'en ai des quantités.
Il suffit de choisir maintenant.
J'ai essayé de vous en trouver une. Oui, je me souviens effectivement d'un couple dans lequel ce monsieur avait une notion d'ordre extrêmement forte. Et tout son défense, d'ailleurs, il avait été éduqué dans l'efficacité. Et donc, il passait son temps à reprocher à sa femme de ne pas être efficace, de perdre du temps à ceci, de perdre du temps avec ça, etc. Et donc, ils étaient en conflit parce que la femme était effectivement plus fantaisiste, mais c'est-à-dire beaucoup plus spontanée dans sa vie, les choses étaient beaucoup moins normées. Et un beau jour, ils se sont mis un peu face à face par rapport à ça. Et monsieur a compris finalement que sa femme avait un apport, quelque chose de très important à lui apporter. Lui qui était assez rigide, que tout était bien logique, les choses sont censées logiquement à lui, sa femme lui apportait quelque chose de beaucoup plus vivant, une espèce de spontanéité.
Une
fantaisie, j'ai envie de dire, voilà. Et donc il a décidé, on parlait une des précédentes sessions, on parlait de la complémentarité, il a essayé de se compléter avec ça, de cultiver en lui ça. Et sa femme en même temps, a essayé de cultiver un peu l'inverse, de mettre un peu plus de logique et un peu plus de durabilité dans ce qu'elle faisait. Et je trouve que ce couple s'est très très bien complété là-dessus. C'est très bien complété, et soit c'est parti d'un conflit qu'ils ont osé dire. La femme a osé dire que son mari l'enquiquinait, a toujours lui mettre des normes, a toujours voulu l'obliger à faire des choses, et lui a été capable de lui dire « Écoute, moi c'est ton désordre qui m'exaspère. » Et finalement, ils ont résolu ça d'une façon que j'ai trouvée assez belle. Voilà.
Merci pour cette belle histoire.
Je vous en prie.
Merci Marc Dancel, psychologue clinicien et thérapeute conjugal. Vous êtes venu dans notre région. Pour cette émission, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'amour durable, joie et mythe de l'amour conjugal chez Artege. Cette émission Vivante Église est disponible en podcast sur www.radioprésence.com, rubrique Foi puis Vie de l'Église. Vous pouvez la télécharger, la diffuser à vos réseaux, la réécouter ce soir à 21h. Et je vous laisse, Marc Dancel, repartir dans votre chère Normandie.
Merci Isabelle, c'est un plaisir d'être avec vous.